Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 4 octobre 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Alberson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, rencontre aujourd'hui entre la CENI et les 21 candidats à la présidentielle de décembre prochain.
Reprise en novembre des audiences de la CPI sur une demande d'acquittement de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo.
Au Libéria, tous les dollars auparavant portés disparus ont été placés dans les coffres de la Banque centrale, assurent les autorités.
Au Mozambique, début du procès de près de 200 djihadistes présumés.
L'affaire Kavanaugh, le Sénat américain doit voter vendredi pour clôturer le débat sur le juge candidat à la Cour suprême des États-Unis.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante échange ce jeudi avec les 21 candidats à la présidentielle du 23 décembre prochain. Objectif, évaluer le processus électoral avec en ligne de mire l'utilisation de la machine à voter qui divise toujours la classe politique congolaise. Le point avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
C'est à 11h, heure de Kinshasa, que s'ouvre ce cadre de concertation entre la Commission électorale nationale indépendante et les 21 candidats présidents de la République. Il sera question de l'évaluation du processus électoral à 2 mois et demi des élections. La machine à voter, outil informatique à l'usage duquel la CENI conditionne la tenue des élections le 23 décembre prochain, divise toujours la classe politique entre d'une part l'opposition qui en exige le retrait et de l'autre la coalition au pouvoir et la CENI favorable à cette machine. L'autre point d'achoppement, c'est le nombre élevé, plus de 10 millions d'enrôlés sans empreinte digitale. L'opposition, là encore, exige le retrait du fichier électoral, ce qui n'est pas du goût de la centrale électorale. Cette réunion entre la CENI et les candidats présidents de la République intervient alors qu'est attendue ce même jeudi à Kinshasa une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui sera en visite officielle et se penchera notamment sur l'organisation des élections. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Concernant cette visite de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, ses membres disent vouloir s'assurer que ces élections présidentielles et parlementaires seront libres, justes et pacifiques. Ils espèrent rencontrer le président Joseph Kabila, son premier ministre et son chef de la diplomatie, la commission électorale ainsi que l'opposition et la société civile. À noter que la semaine dernière, le président Joseph Kabila avait exigé devant l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies un début effectif et substantiel du retrait de la mission de maintien de la paix de l'ONU, la MONUSCO, qu'il ne juge plus utile. Et arguant de sa souveraineté, M. Kabila a refusé toute aide financière et logistique de l'ONU pour le processus électoral.
Les audiences sur une demande d'acquittement de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale reprendront en novembre. La défense a obtenu hier un délai pour préparer sa plaidoirie, Nani Talani.
Les audiences devant la Cour pénale internationale sur la demande d'acquittement étaient prévues jusqu'à demain vendredi. Lors de l'ouverture des plaidoiries hier, la défense a formulé le souhait de bénéficier d'un délai afin de pouvoir répondre à tous les arguments de l'accusation. Après plus de 2 ans de procès, la défense estime que les éléments de l'accusation sont insuffisants pour prouver les charges au-delà de tout doute raisonnable et réclame un non-lieu total. Les demandes sont similaires dans le camp de Charles Blégoudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes fidèles à l'ancien président qui est lui aussi jugé à la haie. Le juge a accepté d'accorder du temps aux avocats des deux accusés afin de leur permettre de bien préparer leur défense. Les audiences reprendront le 12 novembre et se tiendront jusqu'au 20 novembre.
En Guinée, le président Alpha Condé a confirmé mercredi l'éviction de l'ancien président de la Cour constitutionnelle Khalifa Sall. Il a aussi entériné son remplacement par Mohamed Lamine Bangoura, élu le 28 septembre dernier par les 8 autres magistrats de la Cour pour succéder à M. Sall. Le président guinéen, dit-on, était notoirement en froid avec M. Sall. Ce dernier avait mis en garde M. Condé lors de sa prestation de serment en décembre 2015 contre la tentation de toucher à la Constitution. Alpha Condé, dont le second mandat s'achève en 2020, ayant souvent contesté la pertinence de la limitation du nombre de mandats en Afrique.
Au Libéria, la Banque centrale a assuré que des billets de dollars libériens imprimés à l'étranger pour un montant d'une centaine de millions de dollars américains ont bien été placés dans ses réserves, démentant la polémique sur des conteneurs de billets portés disparus. Des détails avec Morgane Guiriec.
Nathaniel Patry, gouverneur de la Banque centrale, assure qu'il ne manque pas 102 millions de dollars américains dans ses caisses. Selon lui, les livres de compte de la Banque centrale et de la société suédoise Crane Currency, 15,5 milliards de dollars libériens, ont été imprimés pendant la période de 2016-2018 et bien placés dans les coffres de la Banque centrale du Libéria. Des informations dans la presse et sur les réseaux sociaux avaient fait état de la disparition pure et simple de conteneurs et de sacs de billets entre le port, l'aéroport et la Banque centrale. Le ministre de l'Information, Len Eugène Nagbe, avait indiqué que le gouvernement n'avait pas été informé de l'arrivée de ces billets. Le président George Weah avait fait ouvrir une enquête et demandé l'aide du FBI américain. 35 employés ou ex-employés de la Banque centrale, dont son ancien gouverneur Milton Weeks et un fils de Mme Sirleaf, ont été interdits de sortie du territoire.
Au Mozambique, le procès de près de 200 personnes, dont de nombreux étrangers, soupçonnés d'appartenir à un groupe islamiste qui sème la terreur depuis près d'un an, s'est ouvert hier dans la prison de haute sécurité de Pemba. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
Ils sont au total 189 accusés en majorité du Mozambique, mais aussi de la Tanzanie, la République démocratique du Congo, la Somalie et du Burundi, réunis dans la cour de la prison de Pemba. À l'ouverture des audiences, le procureur a dressé la longue liste des charges retenues contre eux. Homicide, association de malfaiteurs, crime contre la sécurité de l'État ou incitation à la désobéissance civile. Selon le procureur, ils sont poursuivis pour l'attaque du poste de police et la caserne de la ville de Mokimbao d'Apraia en octobre 2017, la première opération attribuée à un groupe désigné sous le nom de Al-Shabaab qui signifie « les jeunes » en langue arabe. Depuis près d'un an, la province de Cabo Delgado dans l'extrême nord du Mozambique est le théâtre d'attaques meurtrières conduites par un groupe de jeunes hostiles au gouvernement. Ils ont attaqué de nombreux villages de cette région à majorité musulmane et tuant plus d'une cinquantaine de civils.
Le Soudan a convoqué mercredi l'ambassadeur de l'Union européenne à Khartoum, lui reprochant d'avoir organisé une rencontre avec des journalistes qui appellent à une plus grande liberté de la presse dans le pays. Cette rencontre, qui s'est tenue mardi au siège de la représentation diplomatique de l'UE dans la capitale soudanaise, a réuni des diplomates européens et un chargé d'affaires américain venu écouter les journalistes. Selon le ministère soudanais des Affaires étrangères, seul un groupe particulier de journalistes avait été invité.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, la majorité républicaine au Sénat a avancé mercredi dans le processus de confirmation de la nomination du candidat à la Cour suprême Brett Kavanaugh. Elle a annoncé un vote vendredi sur la clôture du débat et un vote final sur la confirmation du juge controversé dès le lendemain. Le juge Kavanaugh est accusé d'agression sexuelle ou de mauvaise conduite par trois femmes. Selon le chef de file des Républicains, Mitch McConnell, le FBI devait présenter hier soir au Sénat le rapport très attendu sur son enquête complémentaire réclamée par les démocrates et par une poignée de républicains qui souhaitaient une évaluation plus complète du candidat.
L'Iran qualifie les États-Unis de régime hors-la-loi après que Washington a annoncé mettre fin au traité d'amitié de 1955 entre les deux pays. Le point avec Abdourahmane Dia.
La décision de Washington intervient à la suite de celle de la Cour internationale de justice demandant aux États-Unis de suspendre les sanctions contre l'Iran visant des biens à des fins humanitaires. Aujourd'hui, les États-Unis se sont retirés du traité américano-iranien après que la CIJ leur a ordonné d'arrêter de violer ce traité en punissant le peuple iranien. Régime hors la loi, a écrit le chef de la diplomatie iranienne Mohamed Zarif sur Twitter. Les juges de la plus haute instance judiciaire des Nations Unies ont décidé que les sanctions visant certains biens constituaient une violation du traité d'amitié de 1955. Les deux pays n'ont toutefois plus de relations diplomatiques depuis 1980. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a estimé qu'il s'agissait d'une défaite pour l'Iran car, a-t-il assuré, les États-Unis prennent déjà des mesures pour que les biens humanitaires soient épargnés. C'est une décision qui, franchement, aurait dû être prise il y a 39 ans lors de la révolution islamique de 1979 qui avait entraîné la rupture des relations entre les deux pays, a-t-il estimé.
En Pennsylvanie, ici aux États-Unis, un intrus armé a tenté d'entrer hier dans la résidence du prédicateur turc en exil, Fethullah Gülen, que les autorités d'Ankara accusent d'être l'artisan du coup d'État manqué en Turquie en juillet 2016. Un vigile a tiré en l'air et l'intrus a pris la fuite, selon un porte-parole de M. Gülen. La police de l'État de Pennsylvanie a effectué des recherches dans le secteur, mais n'a pas pu retrouver l'intrus en question. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a demandé à plusieurs reprises aux États-Unis d'extrader Gülen, qui a fui en 1999 son pays, où il avait été un allié politique de M. Erdogan.
États-Unis toujours, les autorités américaines ont arrêté un habitant de l'État de l'Utah en rapport avec des lettres suspectes adressées cette semaine au président Donald Trump et au Pentagone. William Clyde Allen a été interpellé hier pour avoir envoyé ces lettres qui contenaient une substance devant être dérivée de la ricine, le poison le plus violent du règne végétal. Il n'y a pas d'antidote contre la ricine, l'enveloppe n'est pas entrée dans la Maison Blanche et deux autres destinées au Pentagone ne sont pas entrées non plus dans ce bâtiment. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
En République démocratique du Congo, le prix d'un sac de farine de froment de 45 kg a augmenté de 7 dollars, soit 25%, passant de 28 à 35 dollars auprès des grossistes à Kinshasa. Cette hausse intervient après la fermeture pour cause d'accident de Fab Congo, une des trois principales productrices de farine de froment dans la capitale congolaise. Au Cameroun, le prix du kilogramme de cacao connaît une légère baisse, descendant notamment jusqu'à 910 francs CFA contre un maximum de 970 francs CFA alors qu'il coûtait entre 1000 et 1100 francs CFA. Cette chute des prix peut s'expliquer par la persistance de la saison des pluies qui rend difficile l'accès à certains bassins de production, induisant des coûts supplémentaires aux acheteurs qui les répercutent sur les producteurs lors de l'achat. L'Allemagne va financer à hauteur de 40 millions d'euros la première centrale solaire en Côte d'Ivoire qui ambitionne de faire participer les énergies renouvelables au mix énergétique à hauteur de 11% d'ici à 2020. Cette centrale sera d'une puissance de 37,5 MW crête, la puissance électrique maximale, et sera construite à Bunjali dans le nord du pays.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les demi-finales de la Coupe CAF.
Et tout reste à faire entre El Masri et l'AS Vita Club de Kinshasa après le match nul 0-0 lors de la demi-finale aller de cette Coupe de la Confédération. Le Raja Casablanca lui a pris une option sur la finale en battant Enyimba 1-0. Le Marocain Abdelilah Hafid qui a trouvé le chemin des filets en début de seconde mi-temps.
Paris brille en Ligue des Champions.
Oui, Neymar et ses coéquipiers parisiens ont brillé au Parc des Princes face à l'Étoile Rouge de Belgrade 6-1. Avec un triplé de Neymar, un but de Cavani, un de Di Maria et un de Mbappé, Marine avait réduit le score pour les Serbes. Un but d'Insigne à la 90e minute a permis à Naples de battre sur le fil Liverpool. Les hommes de Carlo Ancelotti sont premiers de ce groupe C devant les Reds et le Paris Saint-Germain. La mauvaise nouvelle pour Liverpool, c'est la blessure de Naby Keita qui est sorti après seulement 19 minutes de jeu touché au dos. Le milieu de terrain guinéen est sorti sur une civière. Après trois matchs sans victoire en Liga, le Barça s'est fait du bien en s'imposant sur le terrain de Tottenham 4-2. Messi a inscrit un doublé et touché deux fois les poteaux contre l'équipe anglaise. L'Inter a battu le PSV Eindhoven 2-1. Le Lokomotiv Moscou s'incline à domicile 1-0 face à Schalke 04. Monaco toujours pas rassuré après une nouvelle défaite 3-0 à domicile contre Dortmund. L'Atlético Madrid et l'attaquant Antoine Griezmann, auteur d'un doublé et d'une passe décisive pour la victoire de l'Atlético 3-1 contre le FC Bruges. Porto a battu Galatasaray 1-0 grâce à l'international malien Moussa Marega.
Et l'Europa League ce jeudi?
Le favori de la compétition, Chelsea, accueille le club hongrois de Vidéotron pour confirmer le bon début de saison, tandis que son rival Arsenal sera en Azerbaïdjan pour affronter le Karabakh. Le Milan AC accueille l'Olympiakos du Pirée. Le FC Séville sera en Russie à Krasnodar. Et puis Marseille, le vice-champion en titre, se rend à Limassol, à Chypre.
«
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les Camerounais se rendent aux urnes dimanche 7 octobre pour choisir leur président parmi 9 candidats, dont le président Paul Biya. Après 36 ans de règne, M. Biya brigue un 7e mandat de 7 ans. Comment expliquer la longévité de Paul Biya au pouvoir ? Nanit Talani a joint Hilaire Kamga, porte-parole de la Société civile pour la démocratie.
Il n'a pas hérité d'une élection pour être au pouvoir, donc il a été installé par M. Aïdjo dans un contexte où le peuple camerounais attendait un changement après 25 ans de règne d'un dictateur connu qui était M. Aïdjo. C'était en 1982. Bénéficiant donc de cet élément de faveur à la réalité, il s'est installé, il a été doublé par les Camerounais, et avec le coup d'État qui a suivi 2 ans après, il a pu se réapproprier le pouvoir et mettre en place des mécanismes de conservation qui s'appuyaient sur les structures que lui-même il a mises en place. Alors ça c'est le premier élément qui est lié aux éléments conjoncturels. Le deuxième élément conjoncturel est celui des années 90, où il réussit à négocier le tournant des vents des libertés de l'Est en refusant la conservation souveraine et en adoptant ce qu'il appelait la tripartie, lui permettant ainsi de neutraliser toutes les velléités contestataires et de mise en place d'une dynamique véritablement endogène de partage de pouvoir. Donc il a pu réussir à neutraliser l'effort de changement après les années 90 et il a signé un système électoral qui, au travers de la fraude, mais une fraude bien huilée, lui permet donc de rester et de se reproduire régulièrement. Parce qu'il faut noter sur ce plan conjoncturel qu'à la réalité, il faut doubler le plan structurel, c'est-à-dire la mise en place d'une commission des organes de gestion des élections qui, après le ministère de la gestion territoriale, sont devenus le MINAT, et l'ONEL et ensuite l'ELECAM, qui en fait sont des structures totalement aux ordres qui lui permettent ainsi de garantir des résultats électoraux en sa faveur. Il faut comprendre là qu'on n'a jamais eu plus de 7 millions d'électeurs au Cameroun, malgré un potentiel électoral de près de 13 millions. Voilà.
L'élection qui pointe à l'horizon est à un tour. D'après vous, quelles sont les chances de l'opposition de l'emporter?
Je vais malheureusement être péremptoire en affirmant que les raisons que j'ai mises sur la table pour retirer ma candidature au sein de la société civile il y a 2 mois sont valables aujourd'hui. Parce que à un tour, si l'opposition, les forces en face de M. Biya, n'ont pas pu coaliser pour impacter sur les inscriptions sur les listes électorales. Alors, le même fichier électoral qui a permis au RDPC d'avoir près de 80% aux élections 2013 va être reconduit pour cette élection. Et donc, malgré l'euphorie qu'on peut avoir autour des candidats, ça ne peut pas impacter fondamentalement sur les résultats électoraux qui vont être programmés parce que M. Biya-Paul s'est donné tout un environnement de garantie de sa proclamation comme président de la République, même si sur le plan populaire, il n'aura aucune légitimité.
Donc vous pensez que l'opposition va aux élections déjà battues d'avance?
Non, c'est clair, les opposants sont déjà battus d'avance, pas parce que M. Biya est impopulaire, parce que personne de sérieux au Cameroun ne peut voter M. Biya, il est le plus impopulaire possible, mais le système électoral avec les 6 millions d'électeurs annoncés par l'élection de Cameroun, c'est les 6 millions d'électeurs pour une bonne partie sous contrôle de M. Biya, et qui n'ont rien à voir avec les foules qui sont derrière les candidats aujourd'hui, dont il y a une possibilité, et il sera déclaré vainqueur, même s'il va perdre dans les urnes au niveau numérique.
Hilaire Kamga, porte-parole de la Société civile pour la démocratie.
Morgane Diriac en votre compagnie, cette semaine dans Washington Forum, l'élection présidentielle au Cameroun. Et ce dimanche, le président Paul Biya, âgé de 85 ans, affronte une opposition morcelée et désavantagée par une élection à un tour. Sur place, nous retrouverons notre envoyé spécial.
Je suis Bagassi Koura, je suis place à Yaoundé. La campagne qui s'achève ce samedi s'est jusque-là déroulée sans incident majeur, mais la participation des électeurs dans les deux zones qui sont secoués par un conflit sécessionniste reste la grande question de ce scrutin.
À quelques jours du vote, le pays est-il prêt? Quelles sont les chances de l'opposition? On en discute ce jeudi à 19h temps universel.
Nous vous le disions hier, le général Ferdinand Mbaou, 62 ans, farouche opposant au président congolais Denis Sassou Nguesso, dénonce le classement sans suite de la plainte qu'il avait déposée en 2015 après avoir été grièvement blessé dans une tentative d'assassinat. Pour une réaction, Nicolas Pinault a joint son avocat, maître Vincent Brinkart.
C'est une décision vers laquelle on se dirigeait un peu compte tenu des difficultés que peuvent rencontrer les enquêteurs pour identifier l'auteur de cette tentative d'assassinat. Maintenant, ça ne veut absolument pas dire que la procédure est terminée puisque M. Mbaou a mandaté un collectif d'avocats dont je fais partie avec également mon confrère Henri Tulliez et mon confrère Norbert Tricot pour nous constituer partie civile devant une juridiction d'instruction de Pontoise, autrement dit pour demander la désignation d'un magistrat instructeur qui reprendra l'intégrité du dossier et fera d'autres actes d'enquête.
Est-ce qu'aujourd'hui, le général Mbaou craint encore pour sa vie ?
Il craint encore pour sa vie puisqu'il y a maintenant quelques mois, une nouvelle tentative d'assassinat a été déjouée. Elle fait l'objet d'une information judiciaire qui a été ouverte auprès de la juridiction d'instruction de Lyon. Donc c'est un dossier pour lequel on attend des réponses. Il y a plusieurs personnes qui ont été mises en examen. Sur les informations dont on dispose pour l'instant, ce sont d'anciens membres des services de renseignement français, puisque ce sont d'anciens membres de la DGSE. C'est suffisamment sérieux. Si l'ouverture d'une information judiciaire, ça montre bien qu'il y avait une menace réelle et qui malheureusement est un peu en répétition par rapport à celle qu'il a déjà connue en novembre 2015. C'est pour ça que d'une part, évidemment, il nous a mandaté pour qu'on prenne toutes les initiatives juridiques pour nous constituer dans ces dossiers, mais aussi pour qu'on alerte le ministère de l'Intérieur sur les risques qui pèsent aujourd'hui sur son intégrité physique.
Qui aurait intérêt à faire taire le général Mbaou et pourquoi ?
Écoutez, je pense qu'il est encore tôt pour le dire parce que ce sont des informations judiciaires qui sont en cours. Il y aura des actes d'investigation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un contexte politique qui apparaît un peu manifeste puisque M. Mbaou, c'est un opposant au régime de M. Sassou Nguesso. C'est pas n'importe quel individu puisqu'il se trouve exilé en France et que, encore une fois, c'est la deuxième fois qu'il fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Donc ça nous donne malheureusement lieu de craindre qu'il y ait en effet potentiellement une nature et un lien politique avec ce qui lui est arrivé.
C'était Maître Vincent Brengart, avocat du général congolais Ferdinand Mbaou en exil en France.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Burkina Faso, et ce, face aux difficultés d'insertion sur le marché de l'emploi, une association casse les préjugés en formant les femmes aux métiers dits masculins. L'objectif est de mettre en lumière les compétences des femmes dans de nombreux domaines quand elles sont bien formées. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Dans la cour du centre féminin d'initiation et d'apprentissage au métier CFIAM à Ouagadougou, c'est la rentrée des classes dans les sections deux roues, électricité automobile, électronique et carrosserie. C'est ici que le fondateur de l'association Tout pour Tous Yenenga est en train de réussir un pari qui n'était pas gagné d'avance il y a encore une quinzaine d'années, mettre sur le marché de l'emploi des filles formées au métier dit masculin et contribuer à changer les regards des Burkinabés, témoigne avec fierté Bernard Zongo, promoteur du centre.
Ce que je retiens d'abord le plus, c'est le changement progressif des mentalités. Parce qu'en 1996, lorsqu'il s'agissait de recruter 10 filles au début, nous avons été obligés d'aller de porte en porte pour pouvoir trouver, au bout du compte, 8 filles pour démarrer la formation. Mais 20 ans après, on a plus de 300 filles en formation de façon permanente. En termes de bilan, nous avons globalement un taux d'insertion de 78%.
Des chiffres qui incitent les apprenantes à redoubler d'ardeur à l'image de Pauline Nikema dans la section tôlerie carrosserie.
Il y a aussi le métier, la tôlerie et la peinture. Ici, nous avons à peu près tous les matériaux pour travailler. Mais dans les garages, ça c'est autre chose. Parce que étant femme, d'autres disent qu'elles n'ont pas la capacité de faire comme les hommes. Et pourtant...
Si nombre d'anciennes et du centre sont embauchées dans certaines entreprises de la place, d'autres ont préféré s'installer avec beaucoup de réussite à leur propre compte grâce à l'accompagnement financier de ces fiables. Le témoignage de Pauline Yabio.
Au début, les gens se bousculaient pour venir voir. C'est la première fois qu'ils repartent de leur moto. Pour le moment, ça va. Et puis, ça satisfait mes clients. Je ne me plains pas.
Le cas de sa collègue diplômée en électronique et électricité est tout aussi frappant. Il a fallu passer par des subterfuges pour pouvoir s'imposer en réparation et installation d'appareils électriques et électroniques, se souvient Mariam Daou.
Il venait pas. Puis mon mari m'a conseillé, comme j'ai fait mon stage 3 mois à Canal, si je peux aller le voir. Maintenant, celui qui vient faire un abonnement, je lui donne une carte de visite. Si je l'explique ce que j'ai fait. S'il a un problème chez lui, il est obligé de venir où il fait son abonnement, chercher un technicien ou un réparateur, aller le dépanner sur lui à la maison. De bout à bout, comme ça, je fais.
Ce sont environ 450 jeunes femmes que le promoteur aura réussi à former en 20 ans d'existence au métier dit masculin. Issana Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Ici aux États-Unis, les électeurs se rendent aux urnes le 6 novembre pour renouveler les 435 sièges de la Chambre des représentants et le tiers des sièges du Sénat. Un scrutin dont l'issue aura un impact sur les deux prochaines années de la présidence de Donald Trump. Mais la bataille polarisante autour de Brett Kavanaugh, candidat à la Cour suprême, semble mobiliser les électeurs des deux partis politiques. Le point avec Arzuma Compaoré.
Au cœur de la fureur suscitée par la polémique autour de la confirmation du juge Kavanaugh à la Cour suprême, Donald Trump est en train de faire le tour du pays pour aider les républicains à conserver leur mince majorité au Sénat.
Promettez-moi que vous sortirez pour les élections de mi-mandat. Ne soyez pas complaisants. Vous devez aller voter.
Mais les démocrates sont déterminés à hausser le taux de participation, y compris par le prédécesseur de Trump, Barack Obama.
Ils diront, je vais attendre l'élection présidentielle, celle-ci en réalité est plus importante. Elle est l'une des plus importantes que nous ayons connues depuis très longtemps.
Selon l'analyste John Fortier, Trump sera la figure centrale de l'élection du mois prochain, motivant probablement les deux côtés.
Il adoube plusieurs personnes et travaille d'une manière qui étonne ceux qui ne l'en croyaient pas capable, donc il est totalement engagé pour le meilleur ou pour le pire, et il est probable qu'il aide certains candidats dans des zones républicaines, mais il risque de perdre des voix dans d'autres régions.
Les démocrates ont récolté de nombreux résultats positifs lors d'élections spéciales et de primaires, signe encourageant pour novembre.
Je pense que les démocrates vont prendre la Chambre basse. Je pense même qu'ils pourraient prendre le Sénat, même si cela semble difficile. L'enthousiasme des électeurs démocrates est extrêmement élevé. Les électeurs républicains se mobilisent aussi, mais les démocrates sont vraiment décidés.
Et nous rendrons à l'Amérique sa grandeur. Merci Virginie Occidentale.
La campagne électorale occupera Trump jusqu'au jour du scrutin, un espoir pour lui d'atténuer la poussée démocrate qui pourrait sérieusement limiter sa présidence.
Chaque vendredi sur VOA Afrique, retrouvez John Linden dans l'Amérique et vous.
L'Amérique et vous, c'est un condensé de la vie aux États-Unis avec l'éclairage de nos experts.
En réalité, l'impression que les Africains ont de la CPI, c'est que le vrai nom de la CPI, c'est Justice pour l'Afrique.
Fidel Castro était vraiment le cauchemar des États-Unis d'Amérique.
L'Amérique et vous, c'est aussi la politique intérieure et les problèmes de société vus sous l'angle américain et africain.
Que c'est une bonne politique qui se vit du côté des États-Unis.
Je crois qu'il faut saluer d'abord cette initiative américaine.
L'Amérique et vous, votre fenêtre sur les États-Unis tous les vendredis 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.